Et bien tout de suite sur Radio Craponne, eh bien nous avons nos avocats qui sont là. Maître Achou, bonjour.
Bonjour.
Maître Schotte, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler avec vous eh bien, du sujet de ce mois-ci, les collectivités territoriales et droits des administrés. Alors, Maître Achou, donc avocat sur le Puy-en-Velay, hein ?
Oui.
Voilà, puisque c'est une émission, bien sûr, avec les avocats de la Haute-Loire. Alors, on va peut-être un petit peu définir qu'est-ce qu'une collectivité territoriale.
Donc, les collectivités territoriales, il y en a trois principales. Il y a les régions, il y a les départements, et puis il y a surtout les communes.
Oui.
Mais les communes, elles ont des prolongements avec un certain nombre d'organisations dites intercommunales. Et vous avez par exemple des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles, des communautés urbaines, des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes. Vous voyez, c'est un vrai foisonnement.
Ah oui.
On parle souvent ici dans notre pays de millefeuille territoriale.
C'est le millefeuille, hein, il y en a de plus en plus dans ces collectivités ou...
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que... Malgré les réformes successives, on soit toujours dans un nombre d'entités très importantes. Les communes, c'est actuellement à peu près 36 000 communes sur le plan national. Ça diminue légèrement parce qu'il y a un dispositif de communes nouvelles qui a été mis en place, mais c'est très lent. Et puis vous avez encore, en termes d'intercommunalité, donc des regroupements de communes sur des transferts de compétences des communes vers l'intercommunalité... Eh bien, vous en aviez encore 17 000, 18 000 il y a quelques années. Actuellement, elles sont au nombre, ces organisations intercommunales, au nombre de 16 000. C'est encore beaucoup.
Oui,
ça veut
oui.
dire qu'au-delà des communes, il y a beaucoup d'organisations publiques qui intéressent les administrés.
Voilà, on parlait tout à l'heure en antenne, syndicat des eaux, par exemple. Ça, ça fait partie d'une collectivité territoriale.
Voilà, donc c'est un syndicat intercommunal. Mmh. Souvent, on dit à vocation unique, parce que vous avez le syndicat à vocation multiple. Et effectivement, c'est un transfert de compétences du service de l'eau, de la commune, ou des communes, vers un syndicat intercommunal. Donc, c'est ce syndicat qui assure la responsabilité du service des eaux. Et donc, ça veut dire que dès lors qu'il y a éventuellement un litige, eh bien, on ne s'adresse pas à la commune, on s'adresse au syndicat intercommunal.
Les CIVOM aussi, non, font partie quoi.
Alors les CIVOM, vous pouvez effectivement, syndicat intercommunal à vocation multiple, ça veut dire qu'ils ont plusieurs compétences. Vous pouvez avoir l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères et d'autres éventuellement.
D'accord. Donc, Maître Schotte, ça veut dire qu'on peut se retourner contre ces collectivités en prenant... Alors, ces collectivités, elles sont défendues par qui justement? Elles ont leurs propres avocats? Comment ça se passe?
Ces collectivités, elles sont représentées par leur organe exécutif. Et lorsqu'il y a un litige, elles peuvent ou se défendre elles-mêmes ou faire appel, bien évidemment, à un conseil et particulièrement devant les tribunaux, à un avocat.
Voilà. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est donc, on va dire, les administrés face aux collectivités. Mais juste avant vraiment d'entrer dans le sujet, est-ce que justement une collectivité peut se retourner, peut agir contre un administré? Je pense que l'inverse est vrai. Est-ce que c'est possible?
Bien sûr.
Oui. Voilà, donc c'était pour le préciser, c'était une question qui me venait tout de suite. Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, si un administré, par exemple, abîme un équipement public,
effectivement,
la commune peut engager une mise en responsabilité pour se faire rembourser des dégâts, par exemple.
Alors, avec Maître Achou et Maître Schotte ce matin sur Radio Craponne, le droit des administrés face à toutes ces collectivités, ce millefeuille territorial, beaucoup de collectivités. Alors, on pourrait déjà peut-être prendre une question qu'un auditeur nous a déposée cette semaine. Alors, Denis qui nous demande, peut-on porter plainte contre une mairie et ai-je besoin d'un avocat? Comment peut-il me conseiller? Maître Schotte, allez.
Alors, comme vous l'a dit tout à l'heure Maître Achou, les collectivités sont nombreuses. Et parmi toutes ces collectivités territoriales, celle qui est la plus proche des administrés, c'est bien évidemment la commune.
Oui.
Peut-on, nous demande votre auditeur, déposer plainte contre une mairie? Alors la réponse est oui, dans les limites suivantes. Une commune, c'est une personne morale de droit public. Les personnes morales de droit public, autres que l'État, peuvent faire l'objet de poursuites devant les tribunaux judiciaires, notamment au pénal, puisqu'on parle de plainte. lorsque elle concerne cette plainte, les activités qui sont susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public. Donc, pas de plainte contre l'État, pas de plainte contre une commune au pénal pour des activités administratives. Il faut que ce soit des activités qui pourraient être gérées sous la forme d'une délégation de service public par une entreprise privée. Je prends un exemple. Mmh. Une commune gère le service de collecte et d'enlèvement des ordures ménagères. On peut déposer plainte contre elle parce que ce service de la collecte et d'enlèvement des ordures ménagères pourrait être géré par une société privée dans le cadre d'une délégation de service public.
Voilà, mais le maire, lui, alors, est-ce que sa responsabilité est engagée en quoi ?
Alors, deux choses différentes. Ou bien on dépose plainte contre la personne morale de droit public, auquel cas on dépose plainte contre la commune.
La commune, oui.
Cette dernière est représentée par le maire, mais c'est la commune qui va être condamnée. Mmh. Ou bien on estime que le maire a commis une faute personnelle et on dépose plainte contre le maire, auquel cas c'est le maire qui est en première ligne et qui va faire l'objet de poursuites à titre personnel dans des conditions là encore réglementées par le code, parce qu'il y a effectivement des conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des élus.
Voilà, bah ça nous fait penser à cette affaire de justement parler de faute, la faute sur mer. Hein, je crois que c'était en Charente, on en reparle bien sûr parce que les procès sont en cours. Que pensez-vous de cette affaire puisque vous êtes là ? Là, le maire, on a vraiment l'impression que les gens ont porté plainte contre le maire. Hein,
Alors
que s'est-il passé ? Cette affaire est assez quand même embrouillée. Hein, enfin, apparemment, le maire est dans de sale drap, comme on pourrait dire. Il a vraiment été attaqué personnellement ?
Alors, essayons de revenir à la question précédente. Est-ce qu'il était possible de déposer plainte contre la commune de La Faute-sur-Mer pour des homicides ou blessures involontaires dues à des infractions en matière d'urbanisme ? Non, car il ne s'agit pas d'une activité qui peut être l'objet d'une délégation de service public. Donc la plainte ne pouvait être déposée que contre les personnes soupçonnées d'être responsables parce qu'elles avaient commis une faute personnelle, de l'homicide ou des blessures survenues à l'occasion, effectivement, de ce drame de La Faute-sur-Mer.
Oui.
Les tribunaux ont estimé que le maire avait commis une faute personnelle, qui était une faute suffisamment grave pour entraîner sa responsabilité.
Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Achou ?
Eh bien, ce que j'en pense, c'est que de plus en plus, les élus sont mis en cause pour des problématiques effectivement liées à des questions de responsabilité et que, effectivement, le métier de maire est un métier à risque. Moi, d'ailleurs, j'avais fait à un moment donné, j'étais dans les collectivités territoriales, j'avais fait un papier pour mon maire. Que j'avais intitulé « Maire, métier à haut risque ». Voilà, c'est vrai que le code pénal conduit à incriminer dans maintes hypothèses, effectivement, les élus dans le cadre de leur activité. Alors, c'est pas simplement les élus, c'est aussi les fonctionnaires qui sont sous leur autorité. Parce qu'effectivement, quand il y a, par exemple, un accident, par exemple, un panneau de basket qui tombe sur un gamin, eh bien, effectivement, il y a le maire, il peut pas tout contrôler, mais il y a aussi l'implication de celui qui contrôle, et notamment le service technique de la collectivité, et donc l'ingénieur ou le technicien qui est en place. Donc ça veut dire toute une chaîne dans une commune peut être mise en cause. Et donc, effectivement, comme l'a dit Maître Schott, il y a deux hypothèses. Soit on impute la faute à une ou plusieurs personnes, donc c'est effectivement une responsabilité individuelle. Ou le cas échéant, si effectivement la faute apparaît globale, eh bien effectivement, on incrimine la collectivité locale, puisqu'effectivement, le pénal peut s'adresser également à la collectivité territoriale en tant qu'entité juridique.
Alors pour terminer avec cette question, donc voilà, il y avait donc que peut faire un avocat. Donc là aussi, on l'a dit dans toutes ces émissions, si on a un litige avec une collectivité, donc prendre un avocat, ça, je pense qu'il y a une conciliation au départ. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, il est là pour vous aider, bien sûr, à monter le dossier, peut-être à savoir qui est le responsable. Parce que dans toute cette jungle administrative, voilà, à quoi peut servir l'avocat alors ?
Souvent, le problème, c'est que d'abord, quand un administré a un problème avec une collectivité, la première chose qu'elle fait, en général, c'est de faire un recours gracieux auprès de la collectivité. Mmh. Et donc, en fonction de la réponse qui est donnée à ce recours gracieux, soit effectivement la collectivité donne suite à la sollicitation, mmh. par exemple, retirer une décision qui ne convient pas à l'intéressé, soit si cette décision est maintenue, eh bien, à partir de là, l'administré peut faire un recours devant le tribunal administratif.
Voilà.
Et donc, d'accord. Il a 2 mois pour le faire, en général, pour effectivement contester une décision prise par une collectivité territoriale. Et donc, après, c'est effectivement le tribunal administratif qui prend un jugement. Et puis, ce jugement peut ensuite être... effectivement porté devant la cour administrative d'appel, et puis vous avez, comme en matière de droit privé, vous avez le Conseil d'État qui peut effectivement casser telle ou telle décision d'une juridiction administrative.
C'est la plus haute instance.
Voilà, en dernier ressort. Voilà.
Eh bien, on va faire une petite pause et puis on continuera avec nos avocats. Aujourd'hui, on parle des collectivités territoriales et droits des administrés. Eh bien, voici la suite de notre émission avec Maître Achou et Maître Schott. Donc, on parle des collectivités territoriales et du droit des administrés face à toutes ces collectivités. Alors, j'ai une autre question qui a été posée par Françoise. Donc, j'ai constaté une zone dangereuse. Sur une portion d'une route départementale, à qui dois-je en faire part? Est-ce que s'il arrive un accident sur cette zone, qui est responsable? Et qui, là, veut répondre? Allez, Maître Schott, c'est à vous.
Bon, alors, c'est une question qui est assez facile à traiter. En ce qui concerne la voirie, sont responsables les collectivités propriétaires qui sont chargées, bien évidemment, de leur entretien normal. Bon. Et lorsque cet entretien normal n'est pas assuré, il est évident que si ce défaut d'entretien normal occasionne un accident, la collectivité territoriale, propriétaire de la voirie, va être tenue pour responsable des conséquences dommageables de cet accident, à charge pour elle d'invoquer la faute d'imprudence commise par l'usager de la route, s'il a pu s'apercevoir des défectuosités, s'il connaissait le trajet, s'il avait été averti par une signalisation adéquate des risques que présentait la chaussée. Donc si cet usager de cette portion de route départementale a signalé une défectuosité d'entretien, il faut qu'elle le fasse au service des routes du département, qui a la gestion, j'allais dire, de cette voirie.
Et alors, s'il arrive justement un accident, on imagine quelqu'un a un grave accident, handicapé ou plus ou moins. Enfin, est-ce qu'il peut il se retourne lui aussi contre les mêmes instances
Effectivement, la collectivité propriétaire de la voirie est responsable de ce qu'on appelle les dommages de travaux publics. Une route, c'est un ouvrage public. Cet ouvrage public entraîne la responsabilité de son propriétaire lorsqu'il est mal entretenu ou qu'il présente une défectuosité qui entraîne un accident. Et ensuite, les conséquences, bien évidemment, sont prises en charge par la collectivité ou par l'assureur de la collectivité.
Voilà, donc on a bien répondu à cette question, oui, qu'on retrouve souvent, évidemment, si vous conduisez. On voulait parler peut-être aussi ce matin du contrôle des collectivités territoriales, Maître Achou. On peut en parler?
Oui,
peut-être de cette,
bien entendu. Donc effectivement, le contrôle des collectivités territoriales se fait effectivement par l'action que peuvent... mener les administrés à l'encontre de la collectivité territoriale. On peut attaquer une décision, une délibération, par exemple, d'une collectivité territoriale. Mais il faut savoir que les collectivités sont enserrées dans des règles de droit et qui font l'objet d'un contrôle, et en particulier un contrôle par le préfet, puisque toutes les délibérations importantes sont portées chez le préfet, qui effectivement dispose d'un délai de 2 mois pour, le cas échéant, réagir. Bon, toute délibération est exécutoire le lendemain, mais effectivement, il y a un contrôle de légalité. On appelle ça un contrôle de légalité. Mmh. et le préfet regarde si ça correspond au texte en vigueur. S'il n'est pas, s'il considère qu'il y a une erreur de droit, la première étape, c'est l'envoi d'une lettre au maire, au président du conseil général ou au président du conseil régional, pour lui dire qu'il demande la rectification de la délibération, par exemple.
C'est-à-dire que ça, c'est l'État, en fait, qui attaque plus ou moins, enfin,
voilà,
la collectivité.
Donc, voilà, il fait d'abord une démarche de recours gracieux, comme le ferait d'ailleurs un administré. Et puis, effectivement, la collectivité, elle a deux solutions. Soit elle rectifie sa décision, en l'occurrence sa délibération, soit, effectivement, elle ne la réforme pas. Elle considère qu'elle est dans son bon droit. Et le préfet, sur une telle réponse, eh bien, il a la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois après la réponse de la collectivité. Donc ça veut dire qu'effectivement, les collectivités sont très surveillées. Elles sont surveillées non seulement au plan juridique, mais également au plan financier, puisque le préfet, pour le contrôle financier, travaille avec ce qu'on appelle les chambres régionales des comptes. Voilà, donc il y a vraiment, contrairement à ce qu'on croit, la liberté communale, elle existe, elle est quand même, c'est une liberté assez surveillée quand
même. Liberté surveillée, on pourrait dire, les collectivités.
Voilà, exactement.
Alors là, il me vient aussi une question, on parle de ces différents échelons, l'individu. Alors si, par exemple, un individu plus ou moins attaque une collectivité, est-ce que cette collectivité peut dire « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État » Est-ce que c'est possible ?
Oui, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle des... Effectivement, un administré peut attaquer une collectivité, puis la collectivité peut faire ce qu'on appelle des actions récursoires pour des entités qui peuvent être éventuellement également responsables. Par exemple, l'État peut être co-responsable d'une décision qui a pu être prise, notamment par exemple en matière de police. Ça peut se passer, vous savez que les maires prennent des arrêtés de police, mais effectivement, les préfets peuvent se substituer aux maires. Et donc, il peut y avoir éventuellement oui, ils peuvent se substituer parce que, effectivement, on considère que les mesures sur la sécurité, la tranquillité publique n'ont pas été prises dans le bon sens. Et donc, un préfet peut substituer. Et donc, s'il y a à un moment donné un problème ou un accident, que sais-je, eh bien... celui qui est attaqué peut éventuellement se retourner contre éventuellement celui qui est co-responsable ou éventuellement effectivement responsable.
Voilà, faut encore faut trouver le responsable, j'ai l'impression. Parce que vous me dites, c'est un millefeuille, je crois que déjà.
C'est pas si complexe que ça. On a pris tout à l'heure la question d'une auditrice.
Oui.
Qui vous dit qui est responsable du défaut d'entretien d'une voirie départementale ou communale. Bon, prenons cet exemple. Prenons l'exemple d'une chaussée communale qui appartient donc à la commune, qui a une obligation d'entretien. La dite commune ayant autorisé un certain nombre d'intervenants à intervenir sur cette chaussée. Elle a autorisé ERDF à poser des câbles électriques, GRDF à poser une canalisation de gaz, le syndicat intercommunal des eaux à poser une canalisation sous la chaussée pour l'eau potable, et le syndicat chargé de l'assainissement a posé une canalisation pour l'assainissement.
Eh bien, il y a du monde, là.
On a rebouché cette voirie et... Les travaux ayant été, j'allais dire, mal faits, voilà qu'un cycliste qui passait sur la plaque d'égout posée par le service de l'assainissement et qui dépassait de la chaussée chute et se blesse gravement.
Oui.
Vous allez avoir toute une cascade de responsabilités, puisque le premier responsable, c'est la commune, qui bien évidemment va vous dire que s'il y a un défaut d'entretien de la voirie, elle n'en est pas responsable, la responsabilité devant être recherchée auprès de ceux qui ont ouvert la voirie et mal rebouché. Et donc il va y avoir en cascade l'appel en cause de tout ce beau monde qui est intervenu sur et sous la chaussée et dont on va essayer de rechercher par la voie d'une action récursoire, comme vous l'a dit Maître Achoux, une part de responsabilité. Et donc c'est après le tribunal qui va au final déterminer sur quelle collectivité territoriale repose finalement la charge de l'indemnisation.
Bien. Bon, on a bien compris avec cet exemple que voilà, vous dites que c'est ça, mais déjà, oui, si on a trouvé un responsable,
on a même trouvé plusieurs.
Voilà, on en a trouvé plusieurs, donc ouais, il peut y avoir plusieurs responsables. On va marquer une nouvelle pause et puis on se retrouve dans quelques instants avec nos